RCF. Bonjour, 18h10, 19h, le magazine régional avec une dimension locale cette semaine. L'occasion pour nous de développer quelques titres. On va y revenir dans un instant. La ministre Catherine Vautrin était à 11h du matin à Reims aujourd'hui. Elle a participé à la cérémonie d'hommage aux infirmières, au monument qui leur est dédié, place Aristide Briand. On y reviendra dans quelques instants. Nous écouterons Jacques Cohen pour questions d'actualité. On écoutera Denis Bouteville, le maire de Trépaille. Et puis bien entendu, comme tous les vendredis, en alternance avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, on retrouve ce soir Mgr Étienne Véteux. On écoutera Patrick Demuy nous entraîner sur les chemins de l'histoire. Et puis nous retrouverons un autre maire, Alain Massot. Il est maire de Doumeli-Beny, dans le département des Ardennes. L'actualité donc aujourd'hui, c'était la venue attendue de la ministre de la Santé, entre autres, et de la Solidarité, la ministre Catherine Vautrin, bien connue à Reims, ancienne présidente du Grand Reims. Elle a participé à 11h avec le maire de Reims, Arnaud Robinet, à la cérémonie d'hommage aux infirmières, au monument qui leur est dédié, place Aristide Briand à Reims. Alors il faut savoir, pour ce monument aux infirmières, que ce vendredi 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Reims rend hommage à Juliette Adam. Alors qui est Juliette Adam? Eh bien, elle fut à l'origine du monument de la place Aristide Briand, tout en bas de l'avenue Jean Jaurès à Reims, un monument dédié aux infirmières françaises et alliées de la Grande Guerre. C'est vrai que le nom de Juliette Adam ne dit pas forcément quelque chose ou grand chose. Il vous deviendra familier aujourd'hui, puisqu'à l'occasion de la journée des droits des femmes, c'est la ville de Reims qui avait organisé cette cérémonie. Alors il faut dire que l'historien Jean-Pierre Husson, comme il le dit dans le journal L'Union, l'historien Jean-Pierre Husson remarque que Juliette Adam est une dame qui est native de l'Oise, qui avait passé son enfance dans l'Aisne, pas loin de chez nous, mais qui avait souhaité, en devenant une femme d'influence, notamment grâce à son salon littéraire à Paris, qui avait souhaité construire, ériger un monument dédié aux infirmières. Les infirmières qui avaient travaillé, bien sûr, pendant la Première Guerre mondiale. Et ce monument a été inauguré le 11 novembre 1924 à Reims. Et à cette époque, Juliette Adam a 88 ans. Eh bien, c'est aujourd'hui que nous lui avons rendu hommage. L'actualité, c'est le chroniqueur. C'est notre chroniqueur du vendredi. Il est avec nous au micro d'Alexis Claudretz, Jacques Cohen.
La chronique d'actualité avec le professeur Jacques Cohen au téléphone avec nous. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler de la ténébreuse affaire Navalny. C'est comme ça que vous avez appelé votre chronique. En tout cas, Navalny, cet opposant à Vladimir Poutine, décédé le 16 février dernier. Tant bien que mal, 10 jours plus tard, son corps avait été remis à sa famille. Il a été enterré maintenant il y a plus d'une semaine. Professeur Jacques Cohen, pourquoi avez-vous envie de revenir sur cette affaire que vous décrivez comme ténébreuse ?
Parce qu'il y a plusieurs choses étranges. À partir du moment où Navalny est mort brutalement en prison, un certain nombre de gens se sont demandé si c'était une mort naturelle. Interrogation tout à fait légitime. Seulement, les morts naturelles existent aussi, même chez un sujet jeune, comme mort subite. Et puis, il avait quand même réchappé à une tentative d'empoisonnement qui, là aussi, était un peu étrange. Parce que Poutine l'avait laissé filer en Allemagne ensuite. Puis il a réussi. Soit il avait voulu le faire tuer et il l'avait raté, soit c'était un avertissement, mais c'est compliqué de faire des avertissements toxiques. Et de toute façon, ça a abouti à le faire partir en Allemagne. Puis il est rentré en Russie, où il a continué une activité d'opposant sans concession, ce qui l'a conduit en tôle, puis cette tôle a été complétée, de ne pas rester en prison du côté de Moscou, mais d'aller près du cercle polaire, au-delà de Vorkouta, l'ancien camp de Staline, au fin fond vers le nord de la Sibérie. Et il est décédé. Et donc, dans un premier temps, on a toute une discussion de quoi est-il décédé. Et assez curieusement, les Occidentaux ne réclament pas une commission d'enquête impartiale, avec des légistes de 36 pays, etc. Les Russes disent qu'ils vont faire leur enquête tout seuls, les personnes ne s'en offusquent. Jusque-là, l'affaire commence déjà à prendre un tour étrange. On se dit à ce moment-là que ce qu'attendent les Occidentaux, c'est que les Russes finissent par rendre le corps et qu'on puisse faire des dosages ou des détections pour voir de quoi il est mort. Et puis, après deux, trois péripéties, on apprend que le corps a été rendu à la famille et qu'il sera enterré à Moscou. On ne va pas parler de deuxième autopsie, puisqu'il n'y a eu que le point de vue des légistes russes, qui d'ailleurs n'est pas connu, parce qu'ils ont rendu leur certificat en mort naturelle, mais ils n'ont pas mis la cause de la mort, elle n'a pas été publiée à ma connaissance par la partie russe, ce qui est un peu étrange, d'autant plus que, ce qui est tout aussi étrange, la partie occidentale, si j'ose dire, ne la réclame pas. Donc ça, c'est étrange, et on va voir que l'affaire devient un petit peu plus ténébreuse à partir de quelque chose d'étonnant.
J'allais dire, Jacques Cohen, si vous soulevez ces problématiques, c'est certainement que vous avez déjà réfléchi ou, entre guillemets, enquêté sur ce qu'il pourrait y avoir derrière. On va peut-être soulever un lièvre.
Oui, un lièvre, je ne sais pas, ou une baleine sous gravière, je ne sais pas, ou un mammouth sous la glace, puisqu'on est en Sibérie. Il y a une chose étrange, c'est que le chef des services secrets ukrainien, Budanov, qui lui est un partisan de la guerre à outrance et des opérations spéciales, sous forme d'assassinat, d'empoisonnement, d'explosifs, enfin, j'allais dire la routine du KGB devenu FSB, qui est un SBU ukrainien, est à peu près la même, hein, pas mythifier le personnage et les encombrements. Eh bien, Budanov a dit que, je vais vous décevoir, il est mort d'un caillou. Alors, une thrombose, ça peut être une thrombose coronaire, cérébrale, etc., digestive, on ne sait pas exactement, mais enfin, pour lui, c'est une mort naturelle. Et, soit, mais enfin, il n'est pas d'habitude là pour servir la soupe ou pour sauver d'affaires ses adversaires vu son opposition radicale à la Russie, et ça oblige à réfléchir un petit peu plus loin. Tout d'abord, on apprend qu'en fait, on était en phase finale d'une négociation pour faire un paquet d'espions américains ou supposés tels, ou journalistes, et puis de Navalny, que les Russes auraient rendus en échange d'un certain nombre d'autres de leurs espions arrêtés à l'Ouest, en particulier d'un gars qui s'est fait piquer quand il est allé descendre un chef tchétchène en Allemagne. Donc a priori, Navalny, il est mort au moment où on allait l'échanger. Ce qui est un petit peu étonnant, mais la faute n'a pas de chance, ça existe aussi. Et que Budanov soit au courant, qu'il puisse le dire exactement de quoi il est mort, ça fait un petit peu réfléchir. Ça fait un petit peu réfléchir parce qu'en fait, il faut revoir qui est Navalny et qui avait intérêt, si tant est que quelqu'un ait fait quelque chose et que ça ne soit pas le bon Dieu, si j'ose dire, qui avait intérêt à ce que Navalny disparaisse du jeu. Et paradoxalement, ce sont les Ukrainiens qui avaient intérêt à ce que Navalny sorte du jeu. Parce que Navalny a commencé sa carrière politique dans l'extrême droite nationaliste russe, avec un certain racisme anti-musulman d'ailleurs, mais il avait approuvé l'opération en Ossétie du Sud contre la Géorgie. Il a surtout, tout à fait approuvé le rattachement de la Crimée. Et il n'est pas connaissance qu'il ait changé d'avis sur la Crimée. Donc, si on se retrouvait avec un chef, entre guillemets, de l'opposition russe mis en vitrine en Occident, avec une position qui soit une base de négociation en quelque sorte possible, ceux qui peuvent en être tout à fait gênés, ce sont les extrémistes ukrainiens. Peut-être pas tous les Ukrainiens, mais en tout cas Budanov qui, lui, considère qu'il n'y a pas d'autre solution que de détruire la Russie et qu'on pourra faire quelque chose que quand il aura décidé sur la place rouge. Donc pour eux, effectivement, Navalny pouvait être l'homme à abattre pour faire capoter l'échange. Mais bien sûr, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit dans cette affaire. Mais je reviens quand même sur cet aspect. Personne ne demande de deuxième autopsie. Personne ne réclame le compte-rendu de la première, y compris donc, comme on dit, les proches de Navalny, comme si en fait tout le monde savait de quoi il s'agissait et qu'on ne veuille surtout pas en parler. Donc, que ce soit une mort naturelle ou une thrombose déclenchée, parce que certains poisons peuvent déclencher des thromboses, c'est quand même une histoire étrange. C'est pour ça que je continue à penser que l'affaire Navalny est une ténébreuse affaire qu'on aura, comme toujours, le fin mot un jour, mais que c'est peut-être pas demain la veille.
Qui a tué tes mémoires? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? C'est pas moi, dit l'arbitre, pas moi. Ne m'en montrez pas du doigt. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver sur une rivière, j'avais dit assez. Mais la foule aurait sifflé, ils en voulaient pour leur argent, tu sais. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y en a d'autres au-dessus de moi. C'est pas moi qui l'ai fait tomber, vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué Timimor?
Et en attendant, Jacques Cohen, que doit-on faire, où doit-on regarder pour essayer de comprendre les choses?
Je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose. Les différentes parties qui semblent avoir, non pas un accord, mais avoir décidé de ne pas parler des choses qui fâchent, Il faut maintenir un blackout un certain temps. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'investigations possibles dans un délai court, à moins que vous ne vouliez d'une part aller récupérer dans un tiroir du FSB le rapport d'autopsie, ou prendre votre pioche pour aller chercher à récupérer des prélèvements sur le cadavre en 6 pieds sous terre à Moscou.
Et la communauté internationale s'en contente, Jacques Cohen?
Bien, c'est ce qui est justement un petit peu étonnant, mais ce qui donc me fait penser qu'il y a anguille sous roche. Je voudrais ajouter un petit détail. On peut légitimement penser que j'ai trop d'imagination, mais si on se rappelle l'affaire du gazoduc de la mer Baltique, où finalement les Ukrainiens semblent bien mouillés, probablement avec les Polonais pour l'avoir fait sauter, la réalité dépasse régulièrement l'imagination des analystes, des journalistes, des commentateurs, etc.
Merci en tout cas de nous avoir éclairé, ou en tout cas comme vous le pouviez, sur cette affaire Navalny un petit peu ténébreuse, comme vous la qualifiez. Et on vous retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle chronique d'actualité, plus d'informations sur votre blog. Ça n'a pas changé, jhmcohen.com. À très bientôt, professeur.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À signaler dans l'actualité locale qu'il y a des abattages d'arbres importants à Orgeval et Neuchâtel en ce moment. Un peu plus de 80 arbres sont actuellement coupés dans le secteur Orgeval-Neuchâtel. Il s'agit de faire place nette avant de redessiner des rues et des espaces publics. Comme l'écrit Alice Renard dans le journal L'Union de ce matin, adieu platane, adieu peuplier, adieu autres érables qui se dressaient dans le quartier Orgeval. En tout, depuis le 28 février et jusqu'à jeudi prochain, le 14 mars, ce sont 88 arbres qui seront abattus par le Grand Reims, une opération qui doit se produire avant le 15 mars ou après le 15 août, afin de respecter la période de reproduction des oiseaux. Alors bien entendu, ce plan de végétalisation urbaine va prévoir la plantation de 145 nouveaux arbres, mais aussi il s'agit, comme on le disait à l'instant, de faire place nette pour redessiner les rues et les espaces publics. Puisqu'on parle de rues, d'espaces, d'aménagement du territoire, comment ne pas penser au maire que l'on retrouve tous les midis et à 18h20 dans ce magazine. Aujourd'hui, on prend la direction de Trépaille dans la Marne avec Denis Bouteville, le maire de Trépaille qui est avec nous. Denis Bouteville, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Denoir.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est l'occasion, monsieur le maire, de découvrir la commune de Trépaille, de présenter un peu Trépaille, combien d'habitants, quel type d'habitants votre commune a aujourd'hui, monsieur le maire.
Alors actuellement, et aux tout derniers chiffres qui nous sont fournis comme chaque année, en fin d'année, et qui servent à l'établissement des dotations, la commune de Trépaille a 447 habitants. C'est une commune totalement enclavée entre vignes et forêts, puisque sur trois de nos côtés, ce sont les vignes, et nous en avons d'ailleurs en intramuros, et sur le quatrième côté, la forêt de la montagne de Reims.
Ah ben c'est une bien belle commune, on imagine, hein. Les vignes et la forêt. Que demander de plus, monsieur le maire?
Rien de plus. Le cadre de vie est magnifique et excellent.
Alors, on imagine que dans cette population, des habitants de Trépaille, comment s'appellent les habitants de Trépaille, monsieur le maire?
Alors, ils se nomment les Trépaillottes et les Trépaillots.
Les Trépaillottes et les Trépaillots, eh bien, elles sont vigneronnes, vignerons, viticultrices, viticulteurs. On imagine qu'il y en a quand même quelques-uns.
Ah, tout à fait, c'est la majeure partie des habitants de la commune, hein, puisque, comme vous l'avez déjà compris, la spécificité première de la commune, c'est effectivement la viticulture.
Et beaucoup travaillent à la vigne, autour de la vigne, ça fait travailler quand même des personnes, tout cela. C'est quand même, le cœur battant économique de la commune.
Tout à fait. Hormis les personnes qui aujourd'hui sont à la retraite, c'est à peu près 80, voire un peu plus de 80% de la population de la commune qui travaille localement, sur place, pour ne pas dire sur place.
Alors vous, Denis Bouteville, monsieur le maire, est-ce que vous êtes maire depuis plusieurs années déjà, ou est-ce que c'est votre premier, deuxième, troisième mandat? Où en êtes-vous exactement, monsieur le maire?
Alors, en ce qui me concerne, j'en suis actuellement à mon deuxième mandat, puisque j'ai été élu pour la première fois en 2014. Sachant qu'en amont, j'avais déjà fait un premier mandat en tant que conseiller.
Alors beaucoup de maires qu'on interroge sur notre antenne régulièrement, tous les jours d'ailleurs, nous disent souvent, pour certains d'entre eux, que c'est quand même beaucoup de travail, plus qu'on ne le pense de l'extérieur. Quelqu'un qui fait bien son travail de maire, ben il est quand même sous pression, sous tension, les réunions, les rencontres, les interpellations, toujours quelque chose à demander, parce que vous êtes à portée de demande.
Je ne vous le fais pas dire, aujourd'hui, pour être maire, pratiquement, si véritablement on veut se donner pour sa commune, pratiquement il faut être en retraite. Ça prend énormément de temps, que ce soit au niveau des charges administratives, tout comme vous l'avez dit, pour les réunions, j'en passe et des meilleurs.
Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est au travail, il ne peut fixer des réunions que le soir ou très tôt le matin. Mais vous-même, vous êtes un retraité, Monsieur Boudeville ?
Oui. J'ai la chance, puisque c'est une chance aussi, d'être à la retraite, ce qui me permet de me donner à fond au profit de ma commune.
Et puis sans stresser, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs maires qui ont des activités professionnelles et qui disent on va devoir arrêter de ne pas se représenter la fois prochaine parce qu'on n'arrive plus, et même au niveau du travail, c'est des gens qui sont artisans, qui sont partis, etc. C'est quand même très compliqué, et puis c'est très fatigant parce que les réunions du soir qui succèdent tous les jours parce qu'on n'est pas là en journée. Et alors parmi les projets, est-ce qu'il y a actuellement, Monsieur le maire, un ou deux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur?
Ah oui, il y en a même un peu plus que ça. La commune a perdu ses deux classes de maternelle en juillet 2022. C'est une volonté du conseil et nous nous sommes regroupés avec une quatrième commune, Petite Loge. Donc de ce fait, il y a tout un bâtiment de plus de 800 mètres carrés datant de la période Napoléon III, hein. 1870, pour être précis, qui est à réhabiliter. Et une réhabilitation d'un bâtiment de genre, ça ne se fait pas comme ça, d'un simple claquement de doigts. Les écoles avaient la chance d'avoir de très grandes cours de récréation, et actuellement, nous sommes en train de travailler un partenariat avec Reims Habitat pour de la construction, pour y ramener un peu sur trépaille du locatif, compte tenu du fait que nous sommes totalement enclavés.
Alors c'est vrai que ça aussi, ça permettrait la venue d'une population nouvelle, enfin de quelques habitants supplémentaires. C'est important pour les communes de retrouver aussi des nouvelles personnes qui sont des nouveaux habitants de la commune.
Bien sûr, et notre espoir, c'est de faire venir sur la commune des jeunes, sachant qu'une des difficultés que nous avons, c'est que globalement, une petite partie de nos jeunes sont obligés d'aller voir dans d'autres communes pour y résider, parce qu'il n'y a rien de disponible sur Trépaille. Ces jeunes reviennent malheureusement lorsqu'il y a décès dans la famille, grands-parents, parents, et très souvent reprennent la maison d'habitation. Mais ce n'est pas au quotidien, et heureusement.
Mais c'est vrai que ça peut donner un nouveau souffle, et puis peut-être aussi, mais alors à ce moment-là, s'il n'y a plus d'école, si ça tombe, il faudra en ouvrir des classes de maternelle, monsieur le maire. Je dis ça avec de l'humour.
Non, il n'y aura pas de réouverture. En fait, en jeunesse très rapide, nous étions déjà sur un regroupement scolaire de trois communes, Bille, Vaudemanche-Trépaille, les maternelles à Trépaille et les primaires à Vaudemanche. Nous avions tellement peu d'enfants que nous avions fini par avoir une épée Damoclès au-dessus de nos têtes, à savoir, d'un côté comme de l'autre, fermeture d'une classe. Donc nous avons préféré rechercher une quatrième commune pour augmenter le nombre d'enfants et leur permettre d'avoir un enseignement en un peu plus correct. Ce qui n'aurait pas été le cas si nous étions restés avec une seule classe matérielle qui, elle, aurait été à 2, 3, voire peut-être 4 niveaux.
Alors évidemment, ce que je vous propose, Monsieur Boudeville, parce que le temps passe très vite, c'est qu'on se retrouve pour peut-être d'autres émissions, même en dehors de l'émission, votre maire nous parle. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre projet, l'embellissement de la commune, les fleurs, je ne sais pas, quelque chose? Parce que le cadre de vie compte beaucoup. Et dans les villes de vignobles, je sais que les viticultrices et viticulteurs, ils savent parfois bien arranger quand même leur maison. Hein, c'est en général pas mal.
Oui. Alors, c'est là un sujet je n'ai même pas la peine d'aborder, puisque nous sommes en recherche permanente d'améliorer le cadre de vie de la commune. J'ai toute une petite équipe qui travaille en ce sens, et venez à partir du mois de juillet sur Trépagne, vous y verrez un village totalement fleuri. Et en dehors de ces fleurs d'ailleurs, il faut savoir que sur Trépagne, il y a bon nombre de chemins de randonnée, tels le chemin des loges, l'escapade dans Trépagne qui permet de découvrir l'architecture de la commune, des sentiers dans les bois, sentiers pédagogiques, et bien d'autres encore, promenades de réalisables fléchées sur la commune. Il faut venir nous voir.
Ah ben écoutez, là, on lance cet appel. Moi-même, j'ai dû passer une ou deux fois à Trépagne, mais je vais faire cet effort, parce que redécouvrir ces communes qui font des efforts exceptionnels, et puis profiter de la découverte de ces vignes, de ces forêts, et de ces villages auxquels on est particulièrement attaché. Monsieur le maire, on le refera encore sur notre antenne, on viendra vous voir, et puis pourquoi pas d'ailleurs faire une émission, qui sait, même depuis votre mairie, une émission, ça serait pas mal, ça d'ailleurs. Au niveau informatique, est-ce que ça passe bien, l'internet, chez vous?
Alors, la commune est intégralement fibrée depuis 3 ans maintenant. Quand le réseau Orange n'est pas en panne, ça passerait bien. Et je veux juste ramener une petite précision. Trépagne était également une des communes du parc naturel régional de la montagne de Reims.
Nous sommes d'ailleurs
une des toutes premières communes à avoir adhéré à la charte lors de la création du parc naturel.
On aura l'occasion d'en parler, Dany Bouteville, maire de Trépagne. Merci en tout cas d'avoir été avec vous. On vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci Jean-Pierre, au revoir et puis bien au plaisir de se retrouver. Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
On va regarder un petit peu la météo, on va regarder du côté du ciel, parce qu'il est vrai qu'il a fait très très beau cet après-midi dans la région de Reims et des Ardennes, avec des températures, on ne peut pas dire estivales, mais enfin qui étaient de l'ordre de 14 degrés. Eh bien demain, il fera 15 degrés à Reims, surtout un peu moins dans le département des Ardennes, mais il y aura peut-être un peu moins de soleil. Météo France annonce un ciel voilé, puis nuageux, mais les températures sont des températures presque printanières. Il pourrait y avoir quelques gouttes de pluie sur Reims et les Ardennes, donc c'était aujourd'hui qu'il y avait vraiment le plus de soleil. En ce qui concerne la journée de dimanche, on attend quelques pluies et ce sera un peu plus gris, avec des températures maximales de l'ordre de 11 à 12 degrés. Vous savez que le vendredi, on retrouve en alternance nos évêques, Mgr Éric de Moulin-Beaufort et aujourd'hui, Mgr Étienne Véteux. Il était en direct ce matin avec nous. Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être en direct avec nous dans ce studio aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'actualité nationale a été marquée ces derniers jours par le vote du Congrès à Versailles pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Alors c'est vrai que ça a été un événement qui a été repris dans de nombreux médias. Quel est votre sentiment ?
C'était repris dans de nombreux médias. La CEF, la Conférence des évêques de France aussi, a fait une déclaration en exprimant sa tristesse. C'est vrai qu'il faut se rappeler que tout IVG demeure une atteinte à la vie en son commencement. Bien sûr, il y a besoin d'une attention à la situation de la femme. Le jour d'aujourd'hui nous le rappelle, mais une attention aux situations de la femme, ça veut dire aussi veiller à pouvoir accompagner ces femmes qui sont en difficulté et leur donner des solutions qui leur permettent de choisir librement, de choisir aussi librement de pouvoir garder l'enfant. Il y a dans la Constitution le droit à la vie. Et à côté du droit à la vie, on est en train d'inscrire le droit à l'IVG. Est-ce que ça aurait pas été plus fort, plus beau, plus significatif d'inscrire à côté du droit à la vie le droit à la protection pour la femme et les enfants? Les femmes et les enfants actuellement vivent de grandes difficultés. On voit à quel point il y a des questions d'abus qui ressortent. De dire, nous voulons dans la Constitution le droit à la protection de la femme et des enfants, ça peut-être que c'est quelque chose qui aurait eu plus de sens.
Monseigneur, c'est vrai aussi qu'on entend souvent parler de l'IVG dans les termes qu'on a évoqués ces derniers jours, mais que l'Église de France rappelle l'importance de la vie, que ce soit d'ailleurs au début de la vie, que ce soit à la fin de la vie. On va retrouver le débat sur l'euthanasie, revenir quand même à des choses de fond essentielles, ce qui ne veut pas dire ne pas s'intéresser à ceux et celles qui connaissent des difficultés.
Absolument. L'Église a ce double rôle qui fait vraiment partie de sa mission, c'est de veiller à donner la direction. La vie est sacrée et quand on se retrouve devant la souffrance, le plus important est de pouvoir aider les personnes par les relations, par le soutien, à bien vivre le moment de leur souffrance. Et en même temps, il s'agit de veiller à chacun personnellement et donc de se dire que chacun est individuel.
Il faut être donc vigilant de ne pas se laisser entraîner par une société médiatique qui va répéter tous les jours la même chose, alors que les problèmes de fond, les questions qui peuvent prendre de la hauteur, ne sont pas toujours suffisamment évoquées. Et vous venez de le rappeler, Monseigneur Vetteux, on aura l'occasion sans doute d'y revenir sur RCF. Si on feuillette un peu l'agenda de votre actualité locale, Monseigneur, vous avez rencontré un certain nombre de communautés religieuses ces derniers jours.
Oui, vous savez que un de mes rôles dans le diocèse, c'est d'être vis-à-vis des communautés religieuses. Et j'ai eu la chance de visiter la communauté de Saint-Thierry, des Bénédictines, dimanche. C'est toujours un beau moment de se retrouver devant une trentaine de religieuses qui ont donné leur vie pour Dieu. De manière différente, à des âges différents, mais c'est magnifique. Elles sont aussi de pays très variés. On voit ici la catholicité de l'Église. Alors mon rôle, c'est à la fois d'orienter, de donner des conseils, mais je crois surtout d'écouter. Je crois surtout d'écouter, de soutenir. Et je suis frappé que dès mes premières semaines dans le diocèse, quand je parlais de la vie religieuse, les gens me disaient, vous savez, elles sont importantes. On les voit pas toujours, elles ne sortent pas beaucoup de leur monastère, mais elles sont importantes. Ce sont comme les poumons de l'Église, du diocèse de Reims et dans les Ardennes.
Je me permettrai, à propos de Saint-Thierry, Monseigneur, de rappeler qu'au cours de la Semaine Sainte, dans le Triduum Pascal, les émissions de RCF sur le plan national seront retransmises en direct depuis justement le monastère de Saint-Thierry. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre aussi sur le réseau national d'écouter les membres de ce monastère. Mais vous êtes allé aussi chez les Clarisses.
Oui, un peu de la même manière, je comptais et je compte pouvoir visiter les différentes communautés. Il se trouve que le week-end qui vient de passer, il y a eu une pièce de théâtre qui s'est jouée chez les Clarisses, une pièce de théâtre sur l'histoire des Clarisses qui ont 800 ans, qui en 2020 avaient 800 ans, on a un petit décalage à cause du Covid. Il s'agit d'une troupe belge, Catecado, une troupe qui a comme spécialité le burlesque religieux. Je dois avouer que, en y allant, je me demandais ce que c'était. Mais il s'agit de faire passer un message important, religieux, en le présentant dans la joie. Et c'était une très grande réussite. C'était très fin, très très bien fait. Tous les âges des participants riaient aux éclats. Et en même temps, on a vraiment retenu les moments les plus importants de cette histoire. Moi, je suis frappé par deux choses. D'une part, c'est une communauté qui est quand même retirée du monde, même si elle est proche de la ville. Et pourtant, on voit comment tous les grands événements de l'histoire ont été très très marquants, ont eu un impact direct sur leur vie. La Révolution, évidemment, les différentes guerres, la situation de la ville. On sent que elles étaient retirées, mais en même temps en plein dans cette vie. Et puis l'autre chose, c'est est-ce qu'on se rend compte à Chartres que nous avons ici une communauté de 800 ans qui a été fondée par une disciple de Claire d'Assis, donc la grande fondatrice des Clarisses, qui a envoyé cette personne pour cette fondation ici. C'est une vénérable tradition et on a besoin d'en profiter.
Monseigneur, on est au cœur du carême. On va l'évoquer d'ailleurs lundi avec vous dans une émission spéciale à 7h et à 8h. Mais hier, je crois que vous avez participé à Sillery à une soirée sur la réconciliation.
Effectivement, on m'avait demandé de parler de la réconciliation et plus précisément de commenter le texte de Jean 24, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, peut-être la première confession. de l'histoire, pour donner quelques éléments sur cette confession. La confession est vraiment un sacrement qu'on aurait intérêt à redécouvrir. C'est un sacrement qui n'est pas si compliqué que ça. C'est rapide, ça se fait à deux dans une ombre, on n'a pas besoin de le faire devant tout le monde. On en a peur parfois, oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et pourtant, quelle libération quand on vit ce sacrement. J'ai une amie juive qui m'a dit l'autre jour, oh, vous avez de la chance, de pouvoir faire ce pas. Parce que de pouvoir confesser ses péchés, c'est les partager avec quelqu'un d'autre et... entendre le prêtre dire « Je te pardonne tous tes péchés », donc au nom du Christ. Et c'est vrai qu'on en sort refait. Juste pour que vous sachiez, dans la période de carême, évidemment, les différents espaces missionnaires proposent des permanences et puis proposent aussi des journées qui permettent de pardon. Et puisque je suis à Reims, je me permets de rappeler celle du mercredi 20 mars, qui a lieu de 10h à 21h, donc il y a vraiment toute la gamme, 10h à 21h à Saint-Jacques.
Et puis le grand événement, dans une dizaine de jours, du 15 au 17 mars, Mgr Étienne Véteux, vous allez bien sûr y participer, être l'un des animateurs essentiels et des participants. C'est le dernier jour pour s'inscrire sur le site du diocèse à jubilaté pour les 14-18 ans. Un très très grand rendez-vous.
Oui. Alors avant ce rendez-vous-là, il y en a un autre qui est le 10 mars, donc dans 3 jours, où à la cathédrale à 16h, il y aura une grande prière pour les victimes des abus. Nous avons pensé qu'il était important de pouvoir prendre un moment pour ces victimes, pour nous signifier notre proximité. Et ce sera une grande prière de pardon et aussi d'action de grâce pour les mouvements, ce qui a été donné. Mais nous terminons le week-end du 15-17 mars par quelque chose pour les jeunes. Il y a encore de la place.
Il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire, c'est le moment.
Merci Mgr Étienne Véteux d'avoir été avec nous. Très très bonne journée et à bientôt sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vous êtes à l'écoute de ce magazine de 18h10 à 19h, magazine local en cette période de vacances. Je vous propose de faire un détour par l'histoire avec évidemment Patrick Demuy. Patrick Demuy qui nous entraîne dans l'histoire de la Chartreuse, des Chartreux. Patrick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on était resté il y a quelque temps avec vous dans cette émission de patrimoine rémois. Nous étions arrêtés dans l'histoire avec les Chartreux. Et
oui.
Justement, vous aviez dit, on va parler plus de ce qui se passait dans notre diocèse. Alors je vous laisse Patrick.
Oui, nous avons ensemble évoqué la fondation d'une Chartreuse dans le département des Ardennes, sur le Mont-Dieu, sur le territoire de Tannay, c'est-à-dire que c'est dans le canton du Chêne, nous sommes là à 23 km au sud de Sedan, pour être précis, dans un domaine qui appartenait à l'origine à l'abbaye Saint-Remy de Reims, car ce sont l'abbé et les moines de Saint-Remy qui ont été les premiers donateurs. C'est intéressant de voir que des moines de vieille tradition, comme les bénédictins, regardaient d'un bon œil ces nouveaux ordres qui se constituaient à la fin du XIe, au début du XIIe siècle. Nous aurons l'occasion de reparler plus tard aussi des prémontrés, ou des ordres militaires aussi, et ils ont facilité l'implantation d'une chartreuse. Alors, j'expliquais que c'était pas sans lien avec la présence de Saint Bruno, le fondateur de la chartreuse, à Reims même, où il avait vécu pendant une trentaine d'années, ayant été professeur, étudiant d'abord, puis professeur, même écolate, c'est-à-dire responsable de l'école épiscopale. Il avait gardé des amis, des liens, et on peut considérer que c'est une fondation posthume de Saint-Bruno. Il était mort à ce moment-là. Nous sommes dans les années 1130, mais c'est son esprit qui perdurait. Alors, il y a eu une fondation florissante au début. Ce que je voudrais rappeler un petit peu, c'est la façon dont elle s'implantait dans le paysage, parce que nos auditeurs peuvent sans doute retrouver ainsi le souvenir de cette chartreuse. Bon, dans une autre émission, je parlerai plus en détail peut-être de la chartreuse en elle-même, de son architecture, et de ce qu'il en reste, c'est malheureusement peu de choses. Et la dotation foncière de départ avait été très généreuse, et les chartreux se sont retrouvés à la tête d'un vaste domaine agricole, et en même temps, ils avaient le droit de justice sur les terres qui leur étaient concédées. Au départ, la donation ressent 6 fermes, la Correrie, ça existe encore, il y a des bâtiments médiévaux de la Correrie, la Grange au Mont, Nocièvre, la Tuilerie, la Forge, le Moulinet. Et on trouvait là des terres labourables, des bois qui pouvaient nourrir 600 porcs. C'est une façon d'évaluer les superficies au Moyen-Âge, puisqu'on envoyait les porcs à la glander. Et un peu plus loin, d'autres domaines offraient terres, forêts, étangs. Ben, nous connaissons les étangs de Béron, mais les étangs de Béron, en 1776, ont donné, nous dit un texte, 7201 carpes et 2330 brochets, sans compter perches, tanches et anguilles.
Ça veut dire, je vous interromps, Patrick Demuyck, du côté du Mont-Dieu, par là, à cette époque, c'était vraiment très, j'allais dire, entre guillemets, très dynamique.
Ben oui, tout à fait. Alors, avec une bonne gestion de ces domaines, en 1600, l'historien de la Chartreuse, donc Ganneron, nous dit que ça représentait 6800 arpents, c'est environ 2300 hectares. Hein. C'était quand même pas mal. Donc de forêts, de pâturages, de terres labourables, des étangs, etc. N'oublions pas que les religieux ne mangent pas de viande, hein. Ils mangent du poisson, pour abstinence. Et alors s'ajoutait aussi à ce patrimoine des maisons, et il y en avait une en particulier à Reims. Alors elle a disparu en 1418. On appelait ça le refuge du Mont-Dieu, c'était rue du Barbâtre. Rue du Barbâtre, bon, il y avait encore une vieille porte il y a quelques années, qui finalement a été démontée, et se retrouve maintenant en pièces détachées, si je puis dire, entre un immeuble qui a été reconstruit en face de la porte basée, et puis des éléments dans le jardin de l'hôtel Le Vergeur. Mais alors, ils avaient ce qu'on appelait un mess, un refuge, effectivement, on aura l'occasion d'y revenir. La situation isolée de la Chartreuse était dangereuse quand il y avait des guerres en particulier, et les religieux pouvaient être amenés à se réfugier dans une ville comme Reims, qui, elle, avait des remparts, et pouvait les mettre en sécurité. Puis ils avaient des vignes aussi. Toute donation doit comporter forcément des vignes, puisque les vieux doivent évidemment célébrer l'Eucharistie, et puis boire un petit peu de vin à table, avec modération, mais tout de même. Alors ils avaient des vignes à Jouy, des vignes à Pargny, des vignes à Chamery, hein, donc dans la zone d'appellation Champagne d'aujourd'hui. Il y avait aussi des vignes ardennaises, alors c'était peut-être un petit peu moins excellent, ça ne va pas être désobligeant, mais enfin, c'est sûr qu'on avait besoin de vins de différentes qualités, des vins de soif ou du vin, des raisins aussi pour faire du verjus, les condiments, et puis des vins plus soignés pour l'Eucharistie, évidemment, pour ne pas faire la grimace devant notre Seigneur.
Mais alors, voilà. Une question peut-être un peu à la marge, mais comme je sais que vous avez quand même, j'allais dire, de quoi répondre, Patrick Demuyck, le lien avec le diocèse de Reims à l'époque pour ces moines.
Ah ben, ils sont dans le diocèse. Les Chartreux n'avaient pas dans le diocèse de privilège d'immunité, en ce sens qu'à différence de certains ordres, ils ne relevaient pas directement du pape. Donc ils étaient inclus dans le clergé régulier du diocèse, et à ce titre, il y a un représentant venait aux réunions synodales, et l'archevêque pouvait faire des visites. Mais leur vocation était très particulière, c'est une vocation de prière, d'isolement, et donc il n'y a pas d'action pastorale.
Mais est-ce qu'il y a des diocésains ou des gens des environs qui avaient contact quand même avec eux?
Il y avait forcément des contacts, parce que l'exploitation de ces domaines se faisait en partie par des fermiers. Les religieux étaient peu nombreux. Hein. La particularité des Chartreux, c'était des petits établissements. Compte tenu de la rigueur de la règle, ça n'a jamais attiré beaucoup de monde. Au début, quand ça a été construit, on nous parle de 13 cellules, c'est-à-dire qu'il y avait un prieur et des 12 moines. Bon, ça s'est un petit peu grandi à la suite, mais au moment de la Révolution, il y avait 26 cellules. Et encore, à cette époque-là, n'étaient pas toutes occupées. Donc, bon, ils avaient quelques serviteurs, etc., mais surtout, enfin, ils faisaient vivre, ils faisaient travailler les agriculteurs du coin qui étaient à leur service et qui cultivaient les terres, moyennant évidemment une redevance. Parce que nous savons que les Chartreux disposaient aussi d'une brasserie, d'une tannerie, d'une scierie, d'un moulin à huile, d'une forge, et tout cela devait fonctionner avec des professionnels. Puis ils avaient aussi le droit de justice, exercé par un prévôt, des sergents, des gardes forestiers. Et donc, on peut dire aussi que les relations des Chartreux avec les habitants du coin pouvaient passer par des procès ou des amendes s'ils avaient été des contrevenants. Voilà. Mais bon, les Chartreux n'ont pas vocation à attirer les fidèles. Bon, rien n'empêche évidemment de rentrer dans l'église pour aller faire une prière, mais ce sont des contemplatifs et qui n'ont pas vocation à organiser des célébrations pour les fidèles des coins qui avaient leur propre paroisse.
Évidemment, Patrick Demuy, on aurait l'occasion, bien sûr, d'approfondir, peut-être la semaine prochaine, si vous l'acceptez,
volontiers,
sur ce sujet. Parce qu'on voudrait bien savoir, quand on se promène pour les habitants de Reims ou pour ceux des Ardennes, bon, du côté du Mont-Dieu, il existe encore, mais c'est une reconstruction. Vous, certainement, vous y reviendrez. On voilà, voit quand même un bâtiment.
Mais à peu près le dixième de ce qui existait à l'origine. Mais nous pourrons en reparler effectivement pour évoquer les bâtiments. Et puis les éléments de mobilier qui ont été dispersés au moment de la Révolution et qui se retrouvent aujourd'hui dans un certain nombre d'églises des environs qui rendent encore présent ce souvenir des Chartreux.
Le 18-19 sur RCF.
On a beaucoup parlé de maires, on continue d'en parler. La semaine prochaine, on aura l'occasion d'entendre de nouveaux maires, de Sévigny-Valep dans les Ardennes, de Villers-Allerand dans la Marne, mais aussi de Varmeriville dans la Marne également. Bref, nous entendons d'autres maires de nouvelles communes. Eh bien, ce soir, on reprend la direction des Ardennes, du côté de Doumely-Beigny, avec Alain Masseau qui est avec nous, le maire de Doumely-Beigny. Alain Masseau, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
C'est Doumely-Beigny.
Oui, Doumely-Beigny. Doumely-Beigny, c'est la réunion de deux villages d'il y a dans les années 50 à peu près. Donc du village de Doumely et Beigny à côté. Donc espacé de 1,5 km, deux villages qui se sont associés à cette époque pour créer donc Doumely-Beigny.
Combien d'habitants a Doumely-Beigny aujourd'hui?
Donc Doumely-Beigny, c'est 92 habitants à peu près.
Avec beaucoup d'agriculteurs, on imagine, des cultivateurs, comme on dit dans les Ardennes.
Oui, enfin, c'est 4-5 exploitations, mais qui ne font vivre que 4 ménages à peu près. Donc village très rural, mais malgré tout, la population ne vit pas, ne travaille pas à l'agriculture en majorité.
Loin oui. Alors ils travaillent, est-ce qu'il y a peut-être beaucoup de retraités, mais ceux qui travaillent, ils travaillent dans quelle ville, pas très loin de chez vous, à Doumely-Beigny, quel est le bourg ou la ville la plus proche en kilomètres?
La plus proche c'est Rethel, 20 kilomètres au sud de Doumely-Beigny, donc une partie des gens travaillent là-bas. Sinon, c'est Charleville-Mézières ou voire Reims pour d'autres.
Il faut dire que dans des villages, alors je ne sais pas si c'est le cas de Doumely-Beigny, mais il y a des personnes jeunes d'ailleurs qui préfèrent, d'ailleurs parce que c'est un peu moins cher, avoir une maison, avoir un petit terrain autour dans le monde rural que d'acheter quelque chose, par exemple, dans une ville où c'est quand même un peu plus hors de prix. Est-ce que vous avez des jeunes dans cette situation? Ou des plus jeunes?
Oui, tout à fait. On a vu une évolution depuis quelques années, peut-être aussi un peu avec l'effet Covid, mais c'était une tendance où des habitations qui se libéraient étaient rachetées, reprises par des jeunes couples, n'avaient pas d'origine ni d'attache dans nos communes, mais apparemment qui souhaitaient.
Mais vous-même, c'est une question un peu indiscrète, Alain Masseau. Est-ce que vous êtes né, vous, à Doumely-Beigny?
Oui, moi je suis né, bon, je suis issu d'une famille de paysans donc et agriculteur moi-même, donc dans la continuité, j'ai 57 ans et donc 57 ans dans la commune.
Mais alors, vous-même, c'est intéressant, vous êtes agriculteur dans un village des Ardennes. Actuellement, il y a une crise agricole. Quel est votre avis en ce moment? Est-ce qu'on tient compte réellement des revendications des uns et des autres? Et est-ce que c'est vivable pour les agriculteurs qui se trouvent dans les Ardennes?
Les revendications, elles sont soit répétées depuis longtemps, ou il y a les dernières revendications suite aux manifestations encore en cours, qui, elles, sont très récentes, donc oui. Les résultats sont à attendre, mais on sait qu'il faut du temps. Bon, c'est bien un cri, un appel au secours quand même de
toute la profession, on peut dire, c'est unanime.
Oui, oui. Tout à fait. Parce que la pression augmente trop, pression administrative, l'environnement qui est bien nécessaire, mais pas toujours bien amené ou bien préparé, et puis une image de l'agriculture qui n'est pas forcément bien diffusée, donc l'agriculture voudrait se reprendre un petit peu en main et donner une autre image d'elle.
On aura l'occasion, bien sûr, à la Masso d'y revenir, mais revenons à la commune de Doumnibeni. Est-ce qu'il y a des projets? Évidemment, dans une commune de 89 ou 90 habitants, une petite centaine d'habitants, on n'a quand même pas des moyens considérables. Vous êtes peut-être un peu aidé quand même, normalement, par la communauté de communes, mais est-ce qu'il y a un projet ou deux qui étaient en cours, qui viennent de s'achever, ou est-ce que vous envisagez pour les mois, voire les années qui viennent, quelque chose un petit peu pour la commune?
Bon, évidemment, il y a peu de projets, puisqu'il y a peu de moyens financiers, et donc un projet, dès qu'il est un peu conséquent, forcément, il faut du temps avant d'en ressortir à nouveau, si je puis dire. Et donc, les projets ou les réalisations actuelles, c'est la voirie, et l'entretien des bâtiments communaux, qui ne sont pas nombreux, mais les églises et les mairies.
Tout à fait, on parle de l'entretien, mais de façon plus générale, les personnes qui viennent, par exemple, vous parlez de jeunes qui viennent s'installer, ils sont attachés quand même au beau cadre de vie, une amélioration. Il y en a qui, est-ce que vous mettez des fleurs? Est-ce que vous avez essayé d'embellir un petit peu, mettre un petit peu de verdure, ou je ne sais pas? Parce que là aussi, il y a des normes, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, hein, on n'a pas de mettre du goudron n'importe où. Vous avez une idée d'améliorer, d'embellir un peu la commune?
Oui, bien sûr, c'est toujours l'objectif. D'embellir ou de rendre les choses ou la vie plus agréable dans la mesure des moyens. La population, la nouvelle population, n'est pas forcément très attachée à la vie du village, mais bien sûr. Mais
parce qu'elle travaille, elle est là, elle rentre le soir, elle repart le matin. Si elle travaille à Rethel ou à Charleville-Mézières, voire à Reims, elle n'est pas toujours présente dans le village.
Bien sûr, les journées sont longues pour toutes ces personnes-là. Puis bon, leur attente, c'était quand même de se reculer un peu de la ville, d'avoir besoin de calme, un peu d'espace autour.
Et vous-même, vous allez parler d'agriculture, mais est-ce qu'il y a de l'élevage chez vous? Peut-être pas beaucoup.
Si, on est dans des zones intermédiaires où il y a de l'élevage et de la grande culture, notamment l'élevage ici, couramment l'élevage laitier ou allaitant, quoi.
Et donc là, vous allez donner votre lait, on vient ramasser, je ne sais plus comment ça se passe, à la laiterie toute proche.
Oui, voilà, un camion collecte le lait tous les deux ou trois jours, selon les situations, et l'emmène en usine pour la transformation.
Comment s'appellent les habitants de Doumnibeni? Parce qu'avec un nom à deux villages comme ça, ils ont un nom particulier ou ils n'en ont pas?
Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Je ne le sais pas et on n'a aucune trace écrite de cela. Donc,
mais quand c'était Doumeli tout seul, il y avait quand même quelque chose, non? Il n'y a jamais eu, quand il n'y avait pas la fusion des deux communes, des deux villages.
Justement, mais je vous dis, on n'a aucune trace écrite et bien sûr, maintenant
écoutez,
les mémoires...
Monsieur le maire, on peut en inventer une, nous, sur RCF. On va les appeler les Doumeliens, ou les Doumelinois, Béniniens. En tout cas, on arrête les plaisanteries. On est heureux de vous avoir, bien sûr, avec nous aujourd'hui à la Manso. C'est l'occasion pour nous de vous encourager parce que vous faites un beau métier dans l'agriculture, dans l'aménagement des paysages, dans l'aménagement du territoire. S'il n'y avait pas les agriculteurs, on se demande ce qu'on ferait. Il y aurait des friches un peu partout. Merci en tout cas d'avoir été avec nous à la Masso. Puis faites-nous une promesse, on le refera d'ici la fin de l'année. On vous recontactera pour ouvrir avec vous une nouvelle page de Votre Mère nous parle. Au revoir à la Masso, très très bonne journée.
Au revoir Jean-Pierre.
Merci à la Masso d'avoir été avec nous. Ce magazine s'achève, merci de nous avoir accompagnés. On rappelle quelques rendez-vous dans notre agenda. On aura le plaisir en ce qui me concerne de vous retrouver demain matin de 11h à midi ou de 17h à 18h, et puis lundi, alors là notez-le dans votre agenda, lundi 7h et 8h, nous retrouverons Mgr Étienne Véteux. Et en cette période de carême, l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims-Ardennes, Mgr Étienne Véteux, reviendra sur le sens du sacrement de réconciliation. Il y aura d'ailleurs un certain nombre de rencontres dans le diocèse de Reims dans les jours qui viennent autour de la célébration du pardon. Cela est à noter dans notre agenda. Merci de nous avoir accompagnés. Dans un instant, le Journal National. Bonne soirée et à bientôt sur RCF. Au revoir.